Les Gardiens de la BD, épisode 183. Au sommaire cette semaine, la fin des ogres dieux, Lou Sonata, Wonder Woman Dead Earth et Il faut flinguer Ramirez, tome 2. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour une nouvelle édition des Gardiens de la BD sur Radio PFM, la 183e. Avec moi cette semaine, Thibaut.
Salut mon petit ogre.
Et Thibaut seulement, puisque Franck a préféré, à juste titre, préparer son anniversaire. On a enregistré ça il y a deux semaines, la dernière émission c'était il y a deux semaines, les librairies sont réouvertes. Les nouveautés ont afflué en magasin et donc on va vous parler de quelques titres qui ont attiré notre attention sur ce qui est sorti. Sachant que les deux prochaines émissions de l'année, et qui seront les deux dernières en direct, il y en aura une qui sera consacrée à la sélection de Noël des Gardiens et la dernière, normalement c'est le 21 décembre si je me rappelle bien, ce sera le top des Gardiens. Sachant qu'il n'y aura peut-être pas une BD de l'année, puisqu'il fallait l'unanimité normalement, et ça va être compliqué cette année, je pense.
Ouais, ça risque d'être compliqué d'avoir l'unanimité.
Voilà, des BD à deux, il y en aura, à trois, on verra.
Pas sûr, mais c'est pas impossible.
Voilà, ouais. Bon, sachant qu'on a quand même lu certaines BD qui nous ont à peu près mis d'accord, mais voir si ce sera dans les tops de chacun, ce sera la surprise le 21 décembre. On va commencer tout de suite. Moi, je vais vous parler de Lou Sonata, tome 1 de Julien Neal. C'est sorti chez Glénat. C'est en fin de compte la deuxième saison de la série de BD de Lou, qui est sortie chez Glénat, BD, série BD jeunesse, qui avait eu un certain succès au point d'avoir un dessin animé où on suivait les aventures d'une petite fille qui grandissait au fur et à mesure des albums. La nouveauté cette fois-ci au niveau de Lou Sonata, c'est qu'on n'est plus sur du 48 pages, on est sur un plus gros format, il doit y avoir une 150aine de pages. Et Lou a quitté son foyer, puisqu'elle est désormais étudiante, et elle va donc s'installer en ville, dans son appartement à elle, avec son petit chat. Thibaut, tu m'entends ?
Oui, je t'entends. Donc, t'écoute avec passion sur et je me posais la question de ce sonata.
C'est pour donner un petit côté musical, peut-être.
Peut-être, ouais, tout à fait.
Voilà. Donc, on va la suivre dans son arrivée à la fac, où elle est, en fin de compte, elle est inscrite à la fac sans trop savoir ce qu'elle va y faire. Elle est dans une grande ville. Qu'elle découvre au fur et à mesure. Au début, elle se perd assez régulièrement, elle ne connaît personne, elle va faire différentes connaissances. Et au fur et à mesure, elle va trouver des petits plaisirs, aller prendre son café le matin au café du coin, lire le journal, parler avec les clients et le patron. Elle va se faire des amis à la fac. Il y a une de ses amies qui va venir la voir, Marie-Émilie, qui cherche un stage et qui va débouler chez elle. Et qui va l'entraîner dans les joies des soirées étudiantes, qui finissent très tôt le matin, pas obligatoirement l'endroit où ça a commencé.
Et ouais, donc, enfin, c'est bien, elle mène une belle vie. Pour l'instant, elle mène une belle vie.
Oui, c'est une belle vie. Et elle a un prof assez spécial qui remet en cause ses cours systématiquement, qui ne suit rien. Donc, ça crée un côté comique. Je ne vais pas en dire plus sur le scénario, parce que comme c'est, en fin de compte, une suite de tranches de vie, il n'y a pas vraiment d'histoire en tant que telle. Moi, j'ai trouvé ça très frais. Ça se lit très facilement. Il y a le choix qu'a fait Julien Neal de faire vieillir son personnage au fur et à mesure. C'est un, C'était un choix intéressant, enfin ça reste un choix intéressant, c'est pas le premier à le faire. De mémoire, Derib avec son trappeur Buddy Longway l'avait fait à l'époque,
Ouais.
pour les plus anciens. Il y en a eu d'autres après. Après, il y a peut-être un risque à lui faire faire le grand saut et de la faire passer peu à peu dans l'âge adulte. Je sais pas si le public continuera à suivre ses aventures sous ce format-là.
Bah, on le verra parce que quelque part, Lou, elle suit aussi la trajectoire, comme tu le dis, de son public qui avait potentiellement le même âge, un peu plus grand, mais le même âge qu'elle quand elle a débuté ses aventures, quand Julien Neal lui a fait débuter ses aventures. Et là, le public grandit avec l'héroïne. Donc, à voir si ça répond.
Ouais, alors il y a peut-être le fait que les lectrices étaient peut-être plus âgées que. Parce que Lou, ça a commencé il y a une quinzaine d'années.
C'est ça qui risque d'être difficile parce que là, elle débute sa vie d'étudiante.
Ouais, alors que les premières lectrices sont peut-être déjà entrées dans la vie active, en fin de compte.
Voilà, quand tu as 22 ans, 23, peut-être que tu lâches ce genre de lecture young adulte pour basculer sur des choses un peu moins fraîches. Peut-être, enfin, pas forcément à raison, hein, mais c'est les scores de lectorat nous le diront.
Ouais, ça, de toute façon, on aura, via nos contacts dans le milieu de l'édition, on aura rapidement les résultats.
Après, il y a toujours aussi quelque chose d'intéressant sur un public plus jeune qui aime lire des histoires d'héros ou héroïnes plus âgés et se projeter par l'intermédiaire de l'héros ou de l'héroïne dans cette vie proche finalement.
Ouais, l'autre avantage de faire le grand saut, le passage à la fac, c'est que ça peut se lire sans avoir lu les 8 tomes précédents.
Ok.
Il y a quelques références aux personnages qui revenaient dans la série, enfin dans l'ancienne série, la mère, la grand-mère,
Mais c'est
le petit frère.
pas
Non, c'est pas gênant parce que tu te
ouais.
rencontres. Enfin, je veux dire, ça commence. Elle emménage dans son appartement. Il y a sa mère qui l'aide. T'as compris que c'était sa mère, quoi.
Ouais.
T'as pas un truc, et tous ses amis de lycée, tu les vois via les relations qu'elle peut avoir à travers les publications qu'ils font sur les différents réseaux sociaux.
D'accord.
Et donc, c'est un bon point d'entrée. C'est moi la question que je me pose vraiment, c'est savoir si ça va marcher. Parce que Julien Neal avait un peu perdu son lectorat avec le tome 7 qui était tout en métaphore, avec en fin de compte, c'était la découverte de la sexualité par Lou, et c'était symbole phallique à tous les étages et des trucs comme ça sans que ce soit jamais dit directement. Il avait rattrapé le coup en revenant quelque chose de plus classique sur le dernier tome, le 8e, qui clôturait le premier cycle. Là, faudra voir comment ça se passe, mais il y est plus dans le. Enfin, ça part moins en couille que le 7e tome qui avait perdu beaucoup de lecteurs.
D'accord.
Après, moi, je recommande vraiment, parce qu'en plus, il n'y a pas tant de. Autant en cinéma ou en série, tu as plein de trucs sur enfin, des séries ou des films sur le passage à l'âge adulte, le temps des indécisions, tu vas à la fac, tu sais même pas ce que tu vas faire encore et compagnie. Enfin, le moment des choix, en bande dessinée, je trouve que c'est assez peu fait. Et alors, ça aussi, c'est fait de temps en temps chez des petits éditeurs. Là, c'est chez Glénat, donc il y aura une plus grande visibilité. Mais c'est vraiment quelque chose que je conseille à tous les lecteurs qui chercheraient une bande dessinée sans action et sans pam-pam boum-boum, parce que ça va
Bon.
être un peu le sujet du reste de l'émission, en vrai.
Et donc, une série à suivre, une nouvelle série à suivre de Julien Neal.
Ouais, c'est ça. Donc 144 pages, sachant qu'on sait à peu près ce qui se passera dans le deuxième tome, puisque le tome 1 crée une nouvelle situation en rapport avec son ami qui recherchait un stage qui s'est mal passé, et Lou a la solution pour l'aider dans son stage, et en fin de compte, elle va quitter la fac. Voilà.
Quel retournement.
Voilà, on va faire la première pause musicale. Alors, c'est Gothic Girl de 69 Eyes.
like a gothic
Deuxième partie des Gardiens de la BD, toujours sur Radio PFM et radiopfm.com. Thibaut, c'est à ton tour. Tu vas nous parler d'une grande série qui vient de se terminer avec le quatrième tome. C'est la saga des Ogres Dieux. C'est paru chez Soleil. Au scénario, c'est le regretté Hubert et au dessin, Gatignol.
Tout à fait. Alors c'est pas vraiment une série, c'est plutôt une œuvre qui est conçue comme un univers à part entière. Chaque tome propose des portraits qui à chaque fois donnent un point de vue particulier sur ce monde-là, et c'est l'addition en fait des tomes et de ces portraits qui donne une forme de série. C'est l'histoire de géants donc qui règnent sur une vaste vallée et ils vivent dans un palais qui est titanesque évidemment et qui est servi par des milliers d'humains. Le clan des géants, lui, est apparu grâce au fondateur et durant des siècles la famille royale elle se dégénère à cause de la consanguinité parce que c'est le seul moyen de perpétuer la dynastie des ogres dieux. Alors il y a des héritiers de ce fait très très différents. Il y a le roi Dieu par exemple qui était le plus grand de toute la lignée et qui a vécu le plus longtemps. Il a eu vraiment une longévité exceptionnelle. Il y a Petit qui lui fait la taille approximativement d'un humain et c'est le symbole de la dégénérescence inéluctable hein, de la lignée. Et puis il y a aussi Demi-Sang, qui est le fils d'un noble né et d'une courtisane. Les nobles nés c'est ceux qui détiennent exclusivement le pouvoir du royaume. Et en dessous, on a le fonctionnaire le plus puissant après les géants, c'est le chambellan. Je dis pas ça par hasard parce que c'est aussi une catégorie de personnages qui ont un rôle important dans ces quatre tomes. Et dans ce quatrième et dernier tome, qui s'appelle Première Née, l'histoire fait un énorme flashback pour parler de la vie de Bragante, qui est donc la première enfant du fondateur. Bragante, elle a tué sa mère en venant au monde. Elle sera donc élevée et éduquée par la sœur de sa mère, sa tante Nita, qui est une grande érudite. Et la combinaison de son savoir à Bragante et de son fort caractère, ça va la conduire à s'élever contre l'autorité de son père, qui lui n'a qu'un seul objectif, c'est faire de ses fils grosso modo des guerriers et de ses filles des reproductrices. Voilà, c'est le projet du père. Et Bragante, elle va s'élever clairement contre ça. Alors le dernier tome, ce quatrième tome, il explore les secrets les plus enfouis des ogres-dieux, notamment cette opposition des points de vue entre la fille et le père, dont on s'aperçoit qu'ils ont lieu dès le début de la lignée. Comme c'est pas une série chronologique, on fait des allers-retours dans le temps. En s'appuyant sur certains personnages. Donc, on s'aperçoit dans ce quatrième tome que dès le début, il y a des conflits de vision entre ce que doit être un ogre, comment il doit se comporter, comment la lignée doit perdurer, et entre la Bragante et son père.
J'ai juste une question. Du coup, il y a un changement, enfin, il y a plusieurs narrateurs dans chaque tome ou c'est toujours un narrateur unique?
Alors, c'est un narrateur unique, on nous raconte une histoire, ça c'est ça relève plus de la forme de la pagination de cet ouvrage. Donc chaque livre est chapitré, chaque chapitre est introduit par plusieurs pages en plein texte. Ça tranche un peu, c'est-à-dire que vraiment on lit pas mal de textes avant de démarrer un chapitre totalement graphique. Et chacune de ces introductions, elle permet d'approfondir considérablement le récit. Donc, on va souvent aborder, par exemple, un nouveau personnage en s'appuyant sur des textes, par exemple le livre des aïeux ou alors le livre des chambellans, et on va découvrir un personnage et les pages dessinées qui suivent vont mettre en scène, par exemple, ce personnage.
Ok.
Ouais.
Non, c'est juste pour dire ok, c'est tout.
D'accord, très bien. Belle intervention. Alors, on découvre aussi dans ce quatrième tome quelques personnages importants qu'on a déjà découverts partiellement sur des tomes précédents. Mais là, on va plus loin, et surtout des personnages qui gravitent autour de la famille des Noblenets. Alors, il y a Aramonde de Riviel, qui est une humaine qui est chargée, qui a été recrutée par les Noblenets et par Bragante, et qui est chargée de sauvegarder les livres après chaque invasion des géants et de leur armée. Il y a Elvire Ellison, qui est le premier capitaine de guerre du fondateur. Ou encore il y a Tovar qui est lui le maître architecte de Bragante, la première née, et qui est un personnage important puisque les géants habitent un château, que ce château il faut le construire à la mesure des géants, mais il faut aussi le construire en pensant aux humains qui les servent parce que il y a quelques géants, pas mal, la majorité même, qui leur petit plaisir c'est la chair humaine. Donc, c'est par exemple un architecte qui construit énormément de passages secrets qui permet à ses congénères de s'échapper, de se cacher et de ne pas être vu et pris pour cible par les géants. C'est quelque chose de très. Tu parlais du regretté Hubert. Définitivement, quand on lit ce genre d'œuvre, on comprend qu'on a récemment perdu un scénariste de très très grand talent. Cette œuvre-là, Les Ogres-Dieux, ça fait écho à sa vie personnelle, parce que à un moment dans sa vie, sa mère était très malade. C'était l'occasion de délier les langues dans la famille. C'est lui qui raconte tout ça, hein, c'est pas moi qui l'invente. Et donc sa mère a commencé à lui raconter un peu des secrets de famille. Et à ce moment-là, il a eu le sentiment que d'être piloté toute sa vie par une histoire qu'il connaissait pas. Et à se poser la question, est-ce que j'existe en tant qu'individu? Et cette question-là, elle revient très fréquemment dans cette série des Ogres-Dieux, surtout à la fin, sur ce dernier opus. Pour reparler un peu du dessin, c'est un dessin qui est en noir et blanc, dans un style plutôt réaliste. C'est une œuvre qui s'apparente plutôt à du roman gothique. On est dans un décor avec château, paysage nocturne, noir et blanc, c'est assez sombre, il y a beaucoup de passages assez sombres. On retrouve des personnages un peu récurrents, femmes persécutées, des bêtes, hein, donc entre autres les géants qui sont vraiment représentés comme des bêtes. On a des personnages qui sont maudits, on a des anges un peu déchus, on a du pacte infernal, de la torture, des secrets du passé qui reviennent hanter le présent. Enfin voilà, on est dans un univers assez gothique.
Je me permets, il y a un petit côté Rabelais aussi avec l'utilisation des ogres et des géants, je trouve.
Oui. Ouais. Bah après ce côté Rabelais, ça a une forme un peu gothique, hein. Toute cette décadence, ce côté un peu extravagant aussi, on retrouve cet esprit-là dans ce roman, ces quatre tomes qui composent le récit des Ogres du. Donc chaque tome de ce récit compte entre 140 et 180 pages à peu près, et vraiment moi je trouve qu'Hubert et Gatignolles signent une saga familiale extraordinaire qui n'a absolument rien d'un conte pour enfants, et qui aborde des sujets plutôt intimes de la famille autant que de la folie qui accompagne l'énorme pouvoir des ogres dieux. Je ne saurais trop conseiller cette lecture, c'est vraiment très 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 bien. Gatignolles, lui, il a totalement créé cet univers graphiquement, le dessinateur Bertrand Gatignolles. C'est plutôt lui à la base un concepteur de personnages pour des séries télé. Et puis Hubert, eh ben, il est assez connu dans le milieu. Il a beaucoup travaillé au début avec des auteurs bankable, en tant que coloriste ou en tant que scénariste. Et puis il a signé Podom, hein, qui est en très bonne place pour être récompensé.
Qui a gagné tous les prix décernés jusque maintenant par la presse.
Ouais.
Et je pense que Hubert sera même. Il y a des chances qu'il soit Grand Prix d'Angoulême cette année pour
Ce
l'ensemble de
serait
sa carrière à titre
voilà,
posthume.
ce serait saluer vraiment un très très grand artiste, un très grand scénariste. Il y a aussi, c'était sorti il y a une petite année, je crois, Le Boiseleur. Il y a aussi au tout début Miss Patouche qui était chez Dargaud Poisson Pilote. Voilà, donc Les Ogres Dieux, le dernier tome, ça s'appelle Première Née. C'est d'Hubert et Gatignolles, c'est chez Soleil dans la collection Métamorphose.
Pardon, j'ai deux questions. Est-ce qu'il n'y a pas trop de personnages dans
Alors,
l'ensemble?
il y a beaucoup de personnages. Moi, je suis vraiment le lecteur bêta-testeur de ce genre de truc. Toutes les séries où il y a trop de personnages, je m'y pomme. Je m'y pomme complètement. Par exemple, comment ça s'appelle, la Game of Thrones, genre de série qui est totalement indigeste pour moi. Il y a trop de noms à retenir, trop de clans, trop de. Voilà, c'est pas possible. Moi, ça me débecte. L'avantage, c'est que donc on aborde beaucoup de personnages. Mais que c'est extrêmement fluide et bien fait et qu'on n'a pas besoin forcément de se souvenir de tout le monde pour retomber sur ses pattes. C'est l'avantage aussi des pages introductives en plein texte qui précèdent chaque chapitre. Ça peut paraître redondant pour certains, surtout ceux qui ont la mémoire de tout ça. Pour moi, qui oublie très vite les noms des capitaines, des autres géants, etc., ça permet de resituer l'action. De dire ah oui c'est vrai lui c'est tel lien par rapport à lui et ça repose un peu l'arbre généalogique. C'est presque ce qui manquerait à cette œuvre, c'est un arbre généalogique dessiné. Ça permettrait de visualiser quand même beaucoup mieux je pense les liens. Ils avaient fait ça dans la guerre des Cendres à un moment, notamment sur une expo qui avait eu lieu à Arras où il y avait eu un arbre généalogique qui a été dessiné par Marc-Antoine Boisdin et c'était très pratique.
Ok, bah, c'était ma question suivante, s'il y avait un arbre généalogique pour s'y repérer. Les textes en introduction, c'est obligatoire de les lire ou on peut s'en passer?
Alors, sincèrement, je pense que tu peux t'en passer, mais que l'histoire n'a pas du tout la même saveur. Ça te permet d'avoir les détails et aussi de contextualiser ce que tu vas lire par la suite ou ce que tu viens de lire. Pourquoi on s'attache à sauver des livres au moment des invasions? Ces questions-là, t'as les réponses en lisant l'introduction. Pourquoi l'architecte a vraiment une importance à part entière dans la survie des humains qui servent les géants, que j'ai expliqué tout à l'heure sur les coins, les recoins, les cachettes, ça, tu l'as dans l'introduction, tu l'as pas du tout dans les planches dessinées. Donc, les planches dessinées sont pas une redite de l'introduction et inversement, ça vient vraiment repositionner et quand tu changes de personnage d'un chapitre à l'autre, c'est très aidant pour dire, bon, on va changer d'univers, on va changer de sujet. C'est vraiment une introduction et une transition en simultané.
Et alors, dernière question avant de faire la pause musicale. L'an passé, un coffret avec les trois premiers tomes était sorti. C'est parce que l'espèce d'un départ d'un nouveau cycle qui n'ira pas beaucoup plus loin avec le décès de Hubert, ou c'était juste une opération marketing, il fallait un coffret pour Noël?
Alors, mon avis, j'ai pas la réponse de la
Ouais,
part
non, mais
des éditeurs, mais
en tant que lecteur.
mon avis, c'est que c'était un coup promo. C'est une série qui a très bien démarré, à tel point que Hubert et Gatignolle ont dû faire un gros gros travail pour se délaisser de la pression qui était liée à cette série. Il y a eu aussi ils ont subi vraiment la pression des lecteurs au moment de la sortie du tome 2 parce qu'ils ont annoncé à la sortie du tome 2 que c'était pas une suite. Et là, les lecteurs ont vraiment hurlé en disant, mais attendez, vous pouvez pas nous laisser en plan comme ça, qu'est-ce que c'est pas une suite, nous on a savouré le premier tome, on est coincé. Et ils nous ont pas expliqué tout de suite que c'était une construction qui se recroisait. Et donc qui n'est pas du tout construite comme une suite. On pourrait presque lire les tomes dans n'importe quel sens que ça fonctionnerait. Donc pour moi, coup marketing, quatrième tome, le dernier, la fin des Ogres Dieux. Je ne sais pas si Hubert a laissé dans les cartons des choses pour faire une excroissance à ça. Gatignolle n'en a pour l'instant rien dit. Moi, je trouverais très bien de terminer là-dessus. Des fois, il faut savoir s'arrêter au bon moment.
Ok, bah merci Thibaut. On va faire la deuxième pause musicale, Professional Griefers de Deadmau5.
Sound of the broken pieces. I like the lights and the siren she sends.
Troisième partie des Gardiens de la BD sur Radio PFM. Moi, je vais vous parler de Wonder Woman Dead Earth, qui est sorti chez Urban Comics récemment dans la collection Black Label. La collection qui donne quasi carte blanche aux auteurs pour s'emparer d'un personnage de DC et en faire à peu près ce qu'ils veulent. Alors, Wonder Woman Dead Earth, c'est écrit et scénarisé par Daniel Warren Johnson, qui est en train de se faire un nom doucement, puisque il n'y a pas encore publié beaucoup de séries. Il tient un blog où il publie Space Mulette depuis quelques années. Donc c'est un récit de science-fiction. Pour s'amuser, à un moment, il a fait une histoire courte basée sur l'univers de Star Wars pendant la bataille finale du Retour de Jedi, basée sur le personnage de Green Leader. Et il s'est fait remarquer peu à peu par les gens du milieu, et notamment par Jim Lee, le directeur éditorial de DC. Et donc, au fur et à mesure, je parlerai après de ses autres bouquins, parce qu'il y a beaucoup de thématiques... Qui se recoupe. Là, je parlais de. Donc, Jim Lee lui a proposé Wonder Woman Dead Earth. Alors, Wonder Woman Dead Earth, ça commence par un rappel rapide des origines de Wonder Woman, sa naissance, sa première rencontre avec l'humanité. Donc, c'est en 2-3 pages. Et Daniel Warren Johnson enchaîne directement par une pleine page sur une explosion atomique. Et le récit va vraiment commencer à partir de ce moment-là, puisqu'on va suivre des gamins poursuivis par un monstre difforme. Et donc, ils se réfugient dans une grotte. Ils tombent sur un espèce de cercueil. Ils l'ouvrent. En sort une Wonder Woman qui a perdu la mémoire. Et par sa technique de narration, il dézoome peu à peu le cadre. On se rend compte qu'elle était enfermée dans la Batcave de Batman. Donc, elle se rend compte rapidement qu'il y a une espèce d'apocalypse nucléaire qui a ravagé l'humanité, et elle va prendre fait et cause pour l'humanité alors qu'elle est d'origine semi-divine, et elle va essayer de sauver l'humanité en les fédérant, et essayer de se rapprocher des Amazones pour voir si elles sont encore en vie. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un twist qui remet en perspective tout ce qui s'est passé précédemment. Pardon. Oh pardon, là ça va pas être bon. Daniel Warren Johnson, c'est vraiment graphiquement quelqu'un de super intéressant. Il arrive à mélanger assez intelligemment ses différentes influences. Alors il cite et c'est ça va être la partie la plus étrange, Calvin et Hobbes de Westerson. Aussi
original.
Ouais, voilà. Oui, bah toi t'as vu un peu ce qu'il faisait sur. Enfin, t'as vu au moins Green Leader, donc
Sur son blog, ouais.
Par contre, donc Moebius, qui est la référence pour beaucoup de gens, et Akira de Katsuhiro Otomo.
C'est après, il a dans ses visages. Qui peuvent paraître incohérents par rapport avec le milieu, enfin par rapport au milieu dans lequel il évolue. L'avantage, c'est qu'on retrouve quand même des visages assez expressifs. Ça c'est plutôt pas mal, je trouve, dans ce genre de.
Ben, il réussit à mélanger les influences comics franco-belges et manga. Ça marche super bien. Alors pour le coup, Urban, le bouquin l'a sorti dans un plus grand format que les comics d'habitude. Donc vous pouvez savourer les différentes doubles pages qu'il y a avec un travail de composition assez phénoménal. pardon. Et donc ouais, je voulais parler en même temps des autres bouquins, parce que alors c'est sorti chez Delcourt précédemment. Il y a Extremity, qui est déjà une histoire post-apocalyptique. Il est encore au scénario et au dessin tout seul, et on va suivre Théa, qui était vouée à être une artiste, hein, puisque l'apocalypse est arrivé à l'entrée dans l'adolescence. Les enfants, on leur donne une vocation, elle était censée être artiste, sauf que la série commence quand son clan est attaqué et les ennemis lui coupent la main, donc elle ne pourra plus être artiste, et elle va avoir une soif de vengeance pour venger sa mère notamment. Plus récemment, il a sorti chez Delcourt Murder Falcon, où ce coup-ci, alors On est en pré-apocalypse. L'humanité se rend compte qu'il y a des monstres géants qui apparaissent un peu partout dans le monde. Et alors que on suit Jack, qui est un espèce de musicien raté qui a jamais percé, il prend sa guitare, il claque un riff et il y a un faucon géant qui s'approche et qui lui dit qu'il est envoyé par le métal, qu'il doit former un groupe et qu'ils pourront buter les monstres grâce aux vertus de la musique métal. Alors, dit comme ça peut paraître très con comme point de départ, sauf qu'il y a là aussi il y a un twist qui fait qu'à un moment c'est plus un travail sur une histoire d'acceptation de la mort en fin de compte.
Ouais, mais la musique, ça a toujours eu un pouvoir. Ça, je le dis depuis tout le temps, la musique, ça a un pouvoir particulier.
Mais donc, Murder Falcon, tu dis ouais, c'est complètement con, des gars qui créent un super groupe. Donc, la batterie, elle a des fusées pour pouvoir s'élever, pour foutre sur la gueule au monde géant et compagnie. Ah ouais, non, mais c'est. Et à côté de ça, il y a un côté très intimiste sur le rapport à la mort des proches. Ce qui fait que, à la fin, t'es surpris par ce que tu as lu. Parce que d'un côté, tu as un côté super fun avec t'aimes ou pas le métal, de toute façon, mais la puissance de la musique, de toute façon. Et tu as ce côté assez noir que tu retrouves aussi, pour le coup, dans Wonder Woman. C'est pour ça que je voulais parler de Murder Falcon entre deux. Parce que, en fin de compte, tu te rends compte à un moment que, au-delà d'être peut-être une des meilleures BD de fantasy qui soit sortie cette année pour le Wonder Woman, puisque elle a plus son lasso, mais elle récupère la ceinture de Batman. Donc elle a plein de gadgets et compagnie, mais il y a aussi un vrai travail sur le. Enfin, un travail, non. Alors, un sous-texte sur accepter ses erreurs, tu sais, garder l'espoir et la confiance en l'autre comme un moteur pour continuer à avancer. Parce que naturellement, comme il y a un twist, assez rapidement, tu te rends compte que c'est plus compliqué que ça. Et il y va pas trop dans le fan service. C'est super accessible pour quelqu'un qui n'a pas lu Wonder Woman, ça passe tout seul. Et encore une fois, alors ce coup-ci, c'est pas un travail, enfin un sous-texte sur la mort, c'est sur la responsabilisation, apprendre des erreurs qu'on a commises, savoir s'en relever et essayer d'être plus fort et de continuer à avancer. Donc Daniel Warren Johnson, moi, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut suivre. Quand DC l'a contacté, il se sentait pas prêt pour reprendre ou Batman ou Superman, et il a dit on va commencer par Wonder Woman. Je pense qu'à un moment ou à un autre, alors toujours dans des, enfin hors continuité, parce que ce sera plus compliqué sur des récits, enfin des one shot en fin de compte. Je pense qu'il pourra se frotter. Enfin, plus c'est DC avec son style, parce que c'est toujours fort post-apo, et donc tu peux faire plus facilement des choses sur la dernière histoire de Batman ou la dernière histoire de Superman que chez Marvel, parce qu'en plus ça a déjà été fait avec Old Man Logan par exemple. Mais je pense qu'il va creuser sa voie et on en reparlera pour le coup. Alors là, c'est vraiment le truc de lecteur de comics, ça te parlera peut-être pas. Au début Urban avait fait un gros travail de découverte de Sean Murphy. Qui a vraiment percé maintenant avec ses Batman White Knight. Là, c'est l'équivalent, c'est un peu la même chose. T'as l'impression que c'est un gars qui débarque de nulle part, qui fait ses travaux en indépendant et tout de suite récupéré par DC. Et il est quand même un niveau super, c'est super intéressant. Et alors, faut aimer le sang et les tripes, parce que naturellement, comme c'est du post-apo à chaque fois ou des combats, il y va franco. C'est pas pour tout public et comme il se permet des grandes doubles pages et compagnie, tu peux t'amuser à détailler le nombre de veines qui ont été sectionnées ou des choses comme ça.
D'accord. Et du coup, tu t'en parlais tout à l'heure sur d'autres bouquins qu'il a pu faire, sur aussi des choix qui peuvent sembler douteux, voire complètement délirants Voilà, c'est chez certains personnages, leurs attributs ou leurs raisons. Là, il y a des choses qui sont un peu pétées comme ça dans le.
Ouais, il y a des choses un peu pétées. Par exemple, il réintroduit, donc c'est une antagoniste de Wonder Woman, qui sera dans le prochain film qui sort bientôt. C'est Cheetah, sauf que donc c'est une femme qui se transforme en tigresse, pour simplifier. Sauf que là, en plus, comme elle était récupérée par les humains et elle sert d'espèce de gladiatrice, ils lui ont greffé une tête de cougar au bout de la main en plus.
Ah oui, un bras animal.
Ouais, voilà, si tu veux, elle a plus de poings, elle a une tête qui peut, enfin, qui peut même, qui peut te mordre et compagnie. Et c'est que comme ça. Après, je veux pas trop détailler. Le traitement des Amazones est assez particulier, particulier. Mais ce serait spoiler pour dire exactement en quoi il est particulier.
Ok.
Mais vous pouvez y aller sans aucun problème. Ça se lit super facilement. Et vraiment, pour le coup, même si c'est du post-apo, vu que l'humanité a complètement disparu et ils n'ont plus que des armes, enfin des armes de poing, des épées, des lances, des trucs comme ça, et qu'ils affrontent des monstres, on est dans une forme de fantasy qui est pas de loin. Alors, pas de Game of Thrones, mais plus quelque chose comme Conan avec l'humanité qui se bat contre des serpents géants ou des choses comme ça.
Bon, donc c'était Wonder Woman. C'était quoi le titre de cet
Dead.
album?
Dead Earth de Daniel
Ok.
Warren Johnson, c'est un récit unique et c'est vraiment. En plus, moi, j'aime pas Wonder Woman d'habitude. Là, c'est vraiment une grosse claque graphique et scénaristique, ce qui est assez rare dans le comics quand un mec écrit et dessine tout seul, qu'il soit à ce niveau-là. Et dans tous les cas, de toute façon, je pense qu'il faudra suivre Daniel Warren Johnson.
Bon, ça reviendra peut-être dans une liste de Noël ou un top, qui sait?
Ben, peut-être.
Peut-être. Bon, merci Nico.
On va faire la troisième pause musicale avant d'attaquer Ramirez. C'est Pretty Vacant des Sex Pistols. Dernière partie des gardiens de la BD pour cette semaine et on va se pencher sur Il faut flinguer Ramirez, tome 2 qui vient enfin de sortir chez Glénat. scénarisé et dessiné par Nicolas Petrimo. Thibaut, te sens-tu d'attaque pour faire le pitch?
Mais
Sachant
tout
que
à
comme...
fait.
Non, alors je dis pourquoi je ne le fais pas, parce que je n'avais pas aimé du tout le premier tome, donc ça risque d'être assez lacunaire. Voilà,
Bah, je
donc
vais
je te laisse
tenter
faire.
de faire ça et je vais tenter aussi d'éviter le spoil le plus possible. Donc on parle de Ramirez, qui est un dangereux tueur mexicain, à vrai dire le meilleur des tueurs mexicains. La police est à sa recherche, ils ont une piste, ce serait un employé de la Robotop, une société de construction d'électroménager, notamment d'aspirateurs. Et donc, ils vont interroger tous ses collègues, notamment un qu'on voit particulièrement. Le problème, c'est que, d'après justement ses collègues, Ramirez, il a absolument rien d'un tueur, c'est même tout le contraire, c'est un employé modèle, il répare les aspirateurs comme personne, il est extrêmement discret au travail, alors entre autres parce qu'il est muet, et Ramirez, il est considéré à la fois comme un agneau par ses collègues quelque part, et aussi comme un souffre-douleur par son supérieur. Alors pourquoi les flics lui courent après? Bah, c'est parce qu'en une journée, Ramirez, il est soupçonné d'avoir perpétré un attentat à la Robotop. Il a aussi été clairement reconnu par des mafieux mexicains de Paso del Rio. Et il est soupçonné d'être complice d'un duo de braqueuses qui s'appelle Chelsea, je sais plus comment, Chelsea Tyler et Dakota Smith. Rien que ça, donc voilà, une journée bien remplie pour
Ça fait
Ramirez.
un peu nom d'actrice porno.
Chelsea Tyler et Dakota Smith, ouais, on va pas se mentir, il y a beaucoup de ça transpire les années 90 et les VHS, hein, ça c'est clair. Alors bah, qui est Ramirez? En fait, c'est ça la grande question. Ce qui est sûr, c'est que pour les hommes armés d'Hector Rodriguez, qui serait a priori son ancien employeur, bah, il faut le flinguer, et puis il faut faire ça vite. Donc à partir de tout ça, démarre un road movie haletant à base de grosses bagnoles et de gros flingues. Ça va? J'ai à peu près pitché correctement?
Ouais, moi j'aurais pas attaqué dans cet angle-là, mais c'est comme ça aussi.
Hein?
Tu
Tu
vois, ah, moi
t'approuves?
je serais parti comment un pauvre employé le meilleur réparateur pas d'aspirine, d'aspirateur,
Ouais, d'aspirateur.
est poursuivi par les flics et la mafia. Mais oui, non, c'est très bien. Donc ça, c'est plus ou moins le tome 1, si je dis pas de bêtises.
Ouais, alors c'est le tome 1 qui se finit par un très très bon cliffhanger, donc qui a un gros suspense qui ouvre sur évidemment une suite et qu'on attend avec impatience. Et le tome 2, bah, il développe la révélation finale du tome 1.
Dans les 10
Et
premières pages à
puis,
peu près.
voilà, bah, la chasse à l'homme, elle continue. C'est-à-dire qu'on retrouve les Mexicains qui sont à la poursuite de Ramirez, les flics qui sont à la poursuite et de Ramirez et du duo de braqueuses. Voilà comment on peut résumer le tome 2. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire en ce qui concerne l'histoire en elle-même.
Non, parce que de toute façon, il y a alors, il faut toujours distinguer histoire et scénario. Au niveau histoire, il n'y a pas grand-chose. Par contre, le scénario va se développer, la façon de mettre en place l'histoire. Mais le bouquin est construit bizarrement parce que tu as l'impression qu'il balance tout ce qui est histoire pour le coup dans les 10 premières pages de la BD. Et il passe à autre chose. Enfin, non, il passe pas à autre chose après. Mais il dit, voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va s'amuser avec nos flingues et nos voitures. C'est le ressenti que j'ai eu.
Ouais, c'est. Moi, je l'ai plus ressenti comme vraiment l'utilisation de codes du cinéma des années 90, 2000, 2010, quoi. Y a beaucoup, on retrouve des scènes mythique, là où c'est fort de la part de Petrimo, c'est que on est tellement conditionné par ce qu'on a pu voir au cinéma qu'il a plus besoin de nous les expliquer. On a des scènes dans un diner américain, on a cette petite ville presque à la frontière mexicaine chargée de soleil. Il n'a pas besoin de passer du temps là-dessus. Nous, on sait déjà quelle ambiance ça crée. parce qu'on a vu plein de films notamment qui nous ont déjà expliqué tout ça. Je te rejoins sur le fond de l'histoire, parce qu'on en a parlé un peu ensemble évidemment avant. À force d'y réfléchir, je me dis que le fond de l'histoire, elle est pas si complexe que ça, loin de là. Par contre, c'est même pas des références qu'il va faire, c'est vraiment utiliser des codes, les réapproprier, les transposer à la BD, et ça, je trouve qu'il le fait extrêmement bien. Ça crée un récit, moi, que je trouve extrêmement rythmé, même si toi, tu trouves qu'il est séquencé un peu plus franchement.
Alors c'est rythmé, mais ce qu'il y a, c'est que de passer les 5 premières pages, ça s'arrête plus, et c'est que de l'action jusqu'à la fin, quasiment. Moi, je suis un peu plus réservé, ce que tu disais. Beaucoup de monde parle de Tarantino comme référence de Petrimo, sauf que Tarantino, malgré tout, il y a toujours un propos autre que c'est fun et c'est point. Tu vois, il tape. Il est toujours à la limite d'une réinterprétation. Enfin, non, Tarantino traite l'histoire à travers l'histoire du cinéma. Ce qui est un peu malheureux pour Petrimo, c'est qu'il singe Tarantino en reprenant des images cinématographiques. S'il avait voulu se creuser un peu le truc, c'est qu'il aurait adapté ce que fait Tarantino au cinéma et qu'il aurait balancé des références de bande dessinée plutôt que des références cinématographiques.
Je comprends ce que tu fais, enfin ce que tu dis, mais moi j'y ai trouvé mon compte, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans mon monde, celui des 30-45 ans qui ont été biberonnés à ça, et puis des fans de Tarantino par exemple, et d'autres choses, hein, parce qu'il y a d'autres clins d'œil.
Luc Besson partout, Franck est pas d'accord avec moi, il est pas là.
Ah mais moi non plus.
Si, c'est du fun pour du fun. Si tu prends un Français qui veut singer les Américains et qui fait du fun pour du fun sans autre prétention, c'est Luc Besson. Hein.
Je suis pas trop d'accord. Ça s'explique. Il y a des choses qui s'expliquent. Alors, c'est difficile d'aller loin dans le fond de l'histoire parce que sinon on arrive sur du spoil vitesse grand V. Mais il y a quand même une question de l'identité.
Et d'ailleurs,
qui se retrouve à la fois du côté de Ramirez, qui comprend pas vraiment ce qui se passe, hein, on sait pas trop s'il est conscient de tout ce qui se passe ou pas. Alors évidemment, il y a le voile élevé dans ce tome 2. Sur la question des braqueuses.
Je permets de te couper le voile élevé sur Ramirez. Enfin, moi, j'ai encore de gros doutes. On en parlait en off aussi.
C'est peut-être ce qu'on espère.
Ça pose plus de questions. En fin de compte, ce qui est développé dans l'histoire, ça me fait poser plus de questions encore pour la suite, sachant que c'était confirmé dans une interview par Olivier Jalabert, l'éditeur de Ramirez, il ne reste qu'un seul tome. Et alors, il y a encore plein de choses auxquelles il doit répondre dans le dernier tome.
Ah oui, le dernier tome va... Peut-être que du coup, tu vois, c'est cet ensemble des trois tomes qui va devenir cohérent, c'est-à-dire que dans le premier tome, on aura l'intrigue qui est posée, avec quelque chose qui est rythmé, mais qui respecte quand même un déroulement scénaristique classique, entre guillemets. Deuxième tome, avec une grosse scène d'action centrale, même sur les deux tiers de l'album, les trois quarts presque, où ça course-poursuite, ça flingue, ça tue, parce que là, il y a quand même, une vingtaine de personnages qui ont déjà passé à trépas en deux tomes. Hein. Et puis, troisième tome, un peu plus posé peut-être, qui nous apportera énormément de réponses. C'est peut-être l'ensemble qui fera cohérence.
Le premier, j'avais vraiment pas aimé. J'ai préféré le deuxième parce que j'ai trouvé qu'il y avait moins d'humour dans le premier, sachant que moi, l'humour du premier ne fonctionnait pas. Tu vois, j'ai pas souri une fois en lisant le premier. Je trouvais ça bas du front. Après, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais il y a une approche radicale, voire quasiment expérimentale dans sa narration. Donc après, volontaire ou pas, la bande dessinée, c'est l'art de l'ellipse. Traditionnellement, les ellipses, on les fait sur les scènes d'action. Les scènes d'action, les personnages bougent, les personnages parlent, il n'y a pas trop d'ellipses, mais t'as n'importe quel BD, le personnage, t'as une case, il sort de la porte et Et j'en sais rien, tu vois un avion y atterrit et y arrive à l'autre bout du monde.
Ouais.
Et là, Petrimo, il fait l'inverse. C'est-à-dire que tout ce qui est contextualisation, le scénario et compagnie, c'est super. Enfin, il y a des ellipses partout, au point où il se permet ce coup-ci, alors c'est plus des fausses pubs, c'est des faux articles de journaux, mais qui sont intégrés directement à la narration, et où normalement tu as des ellipses dans les scènes d'action, là lui il les étire tout ce qu'il peut. Et je trouve ça assez cousu
Alors,
comme truc.
y a ça. Y a, après, le gros de l'ellipse chez lui, c'est les flashbacks. C'est quand il nous fait voyager dans les années 80, je crois, et
Ouais,
qui
non, je crois que ça se
revient.
passe. Non, ça se passe dans les années 80, donc ça doit être dans
Ouais, dans les années.
à la génération d'avant. Comme ça, on spoile
Ouais. Et donc, c'est quand il fait vraiment. Moi, les plus grosses ellipses que je repère, c'est celles-ci, sur lesquelles je suis sensible. Après. J'ai été moins attentif au magazine, au faux magazine qu'il a mis, comparativement aux fausses pubs de son premier tome. Maintenant, je suis revenu un peu en arrière parce que, comme il crée une œuvre un peu à part, l'intrigue, elle transpire quand même dans chaque case. Je me souviens dans le premier tome, parce que j'ai relu du coup les deux, enfin le premier tome juste avant le deuxième. Il y a une scène dans le dîner où t'as les deux braqueuses qui se parlent comme dans Tarantino, comme dans Pulp Fiction, et c'est la première fois où on retrouve les trois personnages qui vont être liés avec Ramirez qui apparaît à la télé à ce moment-là dans la télé du dîner et qui nous dit c'est le meilleur employé de la Robotop, je sais pas quoi. Et en fait, je me suis mis à faire gaffe aux détails en me disant, est-ce qu'il nous embarque pas dans un truc genre Usual Suspect? Et qu'à la fin, il va rassembler les pièces du puzzle. Donc, je me suis amusé à ça. J'ai pas trouvé forcément de pistes probantes. Et après, quand tu t'amuses à ça, bah, tu commences à repérer, à relever bah, toutes les choses, hein, les scènes de Thelma et Louise quand la voiture elle saute du pont.
Ah non, la voiture, quand elle saute du pont, c'est littéralement une scène dans GTA V.
Ouais, non, mais
C'est-à-dire.
alors, mais
Ah non, alors, non, pour
moi,
le
ouais,
coup,
c'est un mix entre
c'est.
GTA 5 et Thelma et Louise, hein, parce que
Non,
tain,
non,
les
parce
deux meufs, elles
que.
sont au
Ouais,
volant.
mais GTA V, t'as un tremplin dans un, enfin, sur une autoroute, pareil, c'est exactement le même truc au même endroit. Pour le coup,
Ouais.
là, c'est ça, parce que Thelma et Louise, c'était dans un ravin.
Ouais, mais attends, moi, tu vois, je pars quand même dans un truc un peu plus poétique que
Non,
GTA.
alors non, GTA 5, c'est peut-être le truc, un des trucs les mieux écrits. Enfin, les GTA sont mieux écrits que 95% des films.
Ouais, bon,
Ceux qui
chacun.
disent le contraire, c'est qu'ils ont juste braqué des putes et volé des voitures. Ils n'ont pas fait
C'est
l'histoire.
ça. C'est ça.
Ben voilà. Bon, bah, c'est sur là-dessus qu'on va se quitter, Thibaut. Un
Ok,
mot de la
bah
fin quand même, rapidos.
c'était Rapidos. Bah Petrimo, il n'a pas inventé les codes qu'il utilise, mais il a assurément trouvé une nouvelle combinaison, moi je trouve, qui enfonce l'accélérateur de la BD moderne et qui appuie sur la gâchette d'un flingue nommé Succès.
Voilà, alors moi j'aurais plus de réserve, même si j'ai préféré le 2 au premier, je trouve toujours malheureux de singer un autre art plutôt qu'essayer de développer le potentiel de la bande dessinée.
Vous
Voilà.
l'aurez compris, un désaccord règne entre les gardiens sur Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimo chez Glénat.
D'ailleurs, donc c'est la fête le jour de cet enregistrement.
Voilà, un des gardiens qui. Ouais, c'est donc Nicolas Petrimo, bonne fête. Et puis, il y a un autre truc qui se prépare, c'est qu'on en a un qui prend du galon.
Ben, voilà.
Donc, on peut lui souhaiter un bon anniversaire à Franck.
Ouais. Et puis, on se retrouve de toute façon, j'espère, avec Franck et toi, Thibault, la semaine prochaine pour commencer à aborder les sélections de fin d'année.
Yes.
Voilà. Donc, merci encore de nous avoir écoutés sur Radio PFM. À la semaine prochaine et auparavant, à tout à l'heure dans vos rêves.